Panorama économique.
Bonjour et bienvenue à la rétrospective de l'actualité économique sur Radio Okapi. Les titres pour commencer. La coopération économique entre la RDC et le Fonds monétaire international en voie de normalisation. Les divergences de vues entre ces deux partenaires autour de la cession des parts de la Gécamines Tracker International dans le contrat minier Comidé sont résolues. Jean-Claude Massangou, gouverneur de la Banque centrale du Congo, et Albert Yuma, PCA de la Gécamines, l'ont dit jeudi à Kinshasa au cours d'un point de presse. 10 millions de dollars américains pour financer 300 micro-projets pendant 2 ans. Le programme d'appui à la conservation des écosystèmes du bassin du Congo a officiellement lancé jeudi à Kinshasa ce fonds. Le financement vient de la Banque africaine de développement et de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC. Les recettes fiscales 2012 de la DGI province orientale ont dépassé 1 milliard de francs congolais. Ces recettes seraient encore meilleures si tous les contribuables déclaraient leurs activités. Le directeur provincial de la DGI province orientale l'a révélé cette semaine à Bounia. C'était à la fin de sa mission dans cette partie du pays. Bienvenue à vous tous. Un invité pour commenter l'actualité économique de la semaine, Michel Somoué. Monsieur Michel, bonjour et bienvenue à Panorama économique.
Bonjour Daniel.
Panorama économique, le dossier.
Premier dossier de la semaine, la coopération économique entre la RDC et le Fonds monétaire international en voie de rétablissement. Ceci ressort du point de presse tenu conjointement jeudi par le président du conseil d'administration de la Gécamines et le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Il s'agissait pour le PCA de la Gécamines de faire la restitution de leur mission effectuée au siège du FMI aux États-Unis du 25 au 28 mars dernier. Albert Yuma a indiqué que le différend qui a conduit au non-renouvellement du programme économique du FMI avec la RDC n'existe plus. Les divergences autour du contrat signé entre la Gécamines et l'entreprise congolaise des mines et de développement Comidé a été résolue. Albert Yuma explique.
Je pense que c'était très clair. Dès notre arrivée, le souhait du FMI était que, ensemble, nous trouvions une solution qui permette de reprendre rapidement les relations entre le pays et le Fonds monétaire. Mais nous avons pu démontrer que les contractants étaient bien connus et identifiés dans des documents clairs et sans ambiguïté. Gécamines cédait ses 25% dans Comidé à Tracker International. Tracker International est une société du même groupe que Simplex, qui était partenaire de la Gécamines au départ. Deuxième point, cette transaction est assise sur un acte d'engagement et d'adhésion signé à la fois par Gécamines, Simplex et Tracker, qui démontre très bien que Tracker adhère au texte de Comidé. Tracker récupère les 25% et Gécamines en contrepartie, et ça je crois que c'est l'élément important. Vous vous souviendrez que on s'est posé la question pour quelle raison, pourquoi on a cédé. Gécamines a toujours dit qu'il s'agissait de régler un vieux litige commercial entre deux partenaires qui étaient dans deux joint ventures avec Gécamines. Il y a eu un accord transactionnel entre Comidé et Goma Mining qui a amené à ce que Gécamines, pour dédommager son partenaire Simplex via sa société du même groupe Tracker, a cédé sa participation. Et en contrepartie, Gécamines est entré dans le capital de Goma Mining à même hauteur de 25%. Troisièmement, il fallait vérifier par les statuts si le conseil d'administration de Gécamines était habilité à autoriser une telle transaction. Et on a pu démontrer que le conseil d'administration de la Gécamines était pleinement habilité à autoriser une telle transaction. Et nous sommes arrivés à la conclusion, avec les amis du FMI, que la gouvernance de la Gécamines avait été respectée.
Albert Yuma, PCA de la Gécamines. Mais avant de retrouver notre invité, Michel Soumou, pour des commentaires, nous allons clôturer ce premier dossier avec cette question. Maintenant que la partie congolaise a donné toute la lumière sur ce contrat, quelle sera la suite du dossier pour que le FMI renouvelle son programme économique avec la RDC? Et à ce sujet, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Jean-Claude Massangou Molongo, donne des explications lui aussi.
Nous avons rédigé ce qu'on appelle un affidavit, donc une déclaration sur l'honneur, que les informations que nous communiquions étaient les vraies informations et qu'il y avait transparence et bonne gouvernance. La suite, après avoir rédigé et soumis à l'examen du département juridique du Fonds monétaire international, ce département juridique ajoutera des commentaires à cet affidavit et ensuite il passera l'affidavit et ses commentaires au département Afrique pour un autre examen et les mêmes documents seront distribués dans tous les départements ou toutes les directions du Fonds monétaire international pour que celui qui a une question à poser puisse la poser et qu'il puisse trouver réponse à sa question. Une fois que cela sera fait, alors à ce moment-là, la dernière étape, c'est l'envoi du dossier auprès de la Direction générale du Fonds monétaire international, qui également donnera son avis. Une fois que la Direction générale aura donné son avis, et nous pensons qu'il y aura un avis favorable, puisque nous avons travaillé ensemble pour rédiger cet affidavit, il y aura peut-être des changements de forme, des points virgules, des virgules, mais pas de changement de fond. Au moment où je vous parle, le département juridique du Fonds monétaire international a déjà fait ses commentaires. Il l'a déjà envoyé à la Direction Afrique. Et là aussi, ils ont déjà fait leurs commentaires. Et maintenant, le document se trouve distribué dans toutes les directions du Fonds monétaire international. Et à ce stade-ci, il n'y a pas de changement de fond. C'est de la simple forme. Le document lui-même a voulu retracer l'historique de cette transaction. Pourquoi y a-t-il eu cette transaction? De façon à ce que, une fois publié, eh ben, celui qui lit ce document peut être rassuré que, effectivement, ce qui s'est passé, c'est exactement ce qui se trouve sur le document et qu'il y ait le moins de questions possibles et qu'il n'y ait plus de suspicions.
Voilà. Pour qu'il n'y ait plus de suspicion, Monsieur Michel, nous vous retrouvons pour analyser ce premier dossier de panorama économique, les relations entre le FMI et la RDC qui sont en train de revenir au beau fixe. Quels commentaires vous pouvez avoir à ce niveau?
Daniel, c'est que je pense d'entrée de bord, ce qui n'est pas bon d'être pauvre dans la vie. Parce que,
mais la RDC n'est pas pauvre.
Ben, elle l'est, parce que si elle ne l'était pas, elle ne serait pas condamnée à toutes ces gymnastiques de justification. Où est passée la souveraineté du pays? Que je sache, la GECAMIN est une société congolaise, à capitaux congolais. Et à capitaux, si je ne m'abuse, 100% congolais. C'est une société qui devrait donc prendre des directions, des directives qui répondent aux objectifs de sa rentabilité et aux objectifs de sa survivance, de son bon fonctionnement. Je ne vois pas pourquoi une institution multinationale soit-elle doit forcément s'ingérer dans des affaires qui concernent une entreprise congolaise, une société congolaise, et partir de là pour sanctionner toute une nation, tout un pays, et estimer qu'on ne peut plus conclure un programme avec le gouvernement de la République parce qu'une société congolaise
a cédé ses parts dans une joint venture.
Quoi de plus normal? Bon, tant mieux si les représentants de la GECAMIN et la Banque centrale du Congo ont pu convaincre le Fonds monétaire international. J'estime que c'est une question de souveraineté qui est régulièrement, malheureusement, trafiquée et qui est compromise en permanence, simplement parce que nous sommes pauvres, un pays pauvre. On ne peut pas leur en vouloir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que les dirigeants du pays devraient partir de ces leçons pour comprendre combien il est urgent de transformer ce potentiel de richesse qu'on nous attribue par le monde entier en une richesse réelle. Est-ce que les Congolais et les sociétés congolaises, les entreprises congolaises et les individus congolais puissent jouir, bénéficier effectivement de toutes ces dotations qui font du Congo, en fait, la condition même de l'humanité et de la mondialisation?
Ben, on est obligé de céder une partie de la RDC est obligée de céder une partie de sa souveraineté justement lorsqu'elle se trouvait dans le gouffre de l'endettement. On lui a fixé une certaine conditionnalité à respecter avant de l'aider à sortir du gouffre. Entre autres, il fallait de la bonne gouvernance dans le secteur des mines, publier les contrats tels qu'ils étaient conclus avec les partenaires. Bon, je pense que le contrat comité a posé un peu problème dans ce sens-là.
C'est même honteux qu'on nous le dise ou qu'on nous l'apprenne. C'est honteux. Parce que je pense que, je parle de la gouvernance, je ne parle pas du contrat comité, je parle de la gouvernance en général. C'est malheureux que les institutions internationales viennent nous faire des leçons sur la gouvernance économique, alors que nous avons une expertise suffisante dans ce pays pour savoir comment il faut gérer. les experts du Fonds monétaire international, ce sont des intellectuels comme tous ceux qui gèrent la nation congolaise. Ils ont les mêmes diplômes d'université que tout le monde. Ils ont appris les mêmes leçons d'économie ou de droit comme
mais
tout le monde.
Mais peut-être pas la même conscience.
Si c'est un problème de conscience, vous avez dit, ça devient honteux. Parce que s'il y a un problème de conscience, alors il y a un problème de choix d'homme.
Deuxième dossier de la semaine, la Banque centrale du Congo a présenté mardi à Kinshasa son nouveau programme de collecte des données économiques. Lesquelles données devront servir à l'élaboration et à la diffusion des statistiques en matière des importations, exportations et les différentes transactions financières qui s'effectuent en RDC. C'est ce qu'on appelle la balance des paiements. Ce programme informatique conçu par les experts de la Banque centrale du Congo devra répondre à un besoin. C'est ce que nous dit Jean-Didier Ogobani.
Améliorer la qualité des données statistiques dans le domaine des importations et des exportations en RDC, c'est sans doute les grands défis que voudrait relever la Banque centrale du Congo. Car depuis 1998, le Fonds monétaire international avait suspendu la publication des statistiques économiques de la RDC dans son annuaire parce que les données ne répondaient pas aux normes internationales. Les services impliqués dans la collecte des informations procédaient par des moyens peu confiants. Pour le gouverneur de la BCC, les données fournies par la douane congolaise étaient toujours incomplètes. Un autre exemple qui illustre bien la faible qualité des données, la RDC a signalé dans ses statistiques datant de 2010 des importations à partir de l'Afrique du Sud, dont le montant représentait 130 millions de dollars. Mais curieusement, pendant la même période, les statistiques des importations de l'Afrique du Sud vers la RDC ont affiché plus de 880 millions de dollars. Malgré les ajustements opérés par la Banque centrale pour compléter les informations reçues de la douane par les données du système bancaire, les statistiques sont demeurées de faible qualité. C'est dans le souci de moderniser les choses que l'autorité monétaire a mis en place en 2011 le mécanisme de télécompensation qui lui permet de centraliser toutes les opérations bancaires en province comme à Kinshasa en 8 heures au lieu de 2 jours. Un deuxième programme a été lancé en 2012. Celui-là permet de retracer à partir des banques commerciales tous les paiements en devises opérés par les opérateurs économiques pour des besoins nationaux ou internationaux.
Merci Jean-Didier Ogobani. Dans ce studio de Panorama économique, Michel Somoué pour analyser et commenter l'actualité de la semaine. Il faut produire la balance de paiement peut-être avant d'en arriver à faire un petit dossier explicatif pédagogique pour permettre à nos auditeurs de comprendre. Monsieur Michel, vous êtes passé aussi par la Banque centrale du Congo et à l'époque, comment vous produisiez la balance de paiement? Comment ça se faisait?
Ben, c'est sur base des statistiques qui nous sont communiquées ou qui, à l'époque, nous étaient communiquées régulièrement par les services de la douane, notamment, et aussi par les banques commerciales par lesquelles les opérateurs économiques passent pour s'activer sur le marché international, que ce soit à l'exportation, à l'importation, il y avait le système des licences. Et nous avons des données qui viennent de l'OFIDA, qui venaient de l'OFIDA, aujourd'hui qu'on appelle, je ne sais plus quoi là.
DGDA.
La DGDA. Et à partir de là, on pouvait élaborer des statistiques.
Mais c'est avéré que les données de la douane, provenant de la douane, étaient toujours incomplètes.
Et pas seulement incomplètes, mais elles sont fausses pour l'essentiel. La plupart des données qu'on nous communique, c'est pour ça que je dis toujours aux Congolais, chaque fois que je suis invité à commenter les chiffres officiels qui sont publiés dans les rapports sur le taux de croissance, sur le taux d'inflation, sur le taux patati patata, je dis toujours aux Congolais, il faut se méfier de toutes ces statistiques parce qu'elles sont fabriquées dans des bureaux climatisés et n'ont rien à voir avec la réalité du terrain. Et aujourd'hui, pratiquement, la Banque centrale me rejoint en considérant, en acceptant la sanction du Fonds monétaire international selon laquelle elle ne peut plus publier, les statistiques qui viennent du Congo parce qu'elles sont incomplètes et fausses. Et aujourd'hui, la Banque centrale dit qu'elle va lancer un logiciel pour pouvoir corriger ou rectifier cela.
Et là, on implique l'OCC, la Direction Générale de la Dette Publique, on implique le FPI, on implique au moins 7 services publics de l'État pour amener des données. Et je pense que ça peut encore être plus efficace qu'avant.
Plaise à Dieu qu'il en soit ainsi. Ben, je crois que si on vous donne des statistiques qui sont fausses, ce n'est pas parce que la DGDA, l'Office congolais de contrôle, etc., ne sont pas capables de travailler. Mais c'est parce que l'essentiel des transactions économiques sont fondées sur la fraude. Comment vous pouvez comprendre cet écart de 130 millions à 880 millions même si on peut commettre des erreurs statistiques, mais pas d'une telle profondeur.
Oui.
Et c'est pour dire que Quelle est la véracité de nos condamnations? Mais je pense que si on veut corriger ce genre d'informations, il faut commencer par engager les agents qui doivent se charger essentiellement de toutes les données économiques, pas seulement pour la balance commerciale. Parce que vous vous rendez bien compte que la Banque centrale notamment, qui est en réalité la référence en matière de l'information économique du pays, voit son personnel se réduire au jour le jour. Vous avez fait allusion à mon passage à la Banque centrale. À l'époque, nous étions 3800 agents. Mais aujourd'hui,
pour toute la République.
Pour toute la République, aujourd'hui, ça fait le tiers de ce chiffre. Alors qu'aujourd'hui... Mais il y a quand même
de la machine qui remplace l'homme.
Non. Écoutez, je vous dis que la France, par exemple, qui a la technologie la plus avancée et de loin incomparable à la nôtre, parce que devant la France, nous sommes un nain en matière de développement technologique. Mais la France a quand même 5 millions de fonctionnaires. Le Congo en a 800 000 seulement, y compris les fraudeurs, les faux, comment on dit encore, les fictifs. Ils sont 800 000, toutes catégories confondues. Alors, ça pose un problème. Est-ce que la France, qui a 5 millions de fonctionnaires, alors qu'elle ne représente que le quart de l'étendue de la RDC.
Et donc la RDC pouvait en avoir 4 fois plus.
Donc la RDC devrait en avoir au minimum 4 fois plus. Et y ajouter le même, à condition d'être au même niveau de connaissances technologiques que la France.
C'est qu'il se pose un problème de main-d'œuvre.
Il y a un grand problème de main-d'œuvre dans ce pays.
Ok. Merci. Le troisième dossier de la semaine nous conduit en province orientale. Le centre synthétique d'impôts de Ouattara, dans le Haut-Uele, a mobilisé plus d'un milliard de francs congolais pour l'exercice fiscal 2012. Ces recettes proviennent des différents impôts payés par les contribuables congolais et étrangers et sont supérieures à celles de 2011. Malgré cette augmentation par rapport à l'exercice passé, la DGI dénombre plusieurs contribuables nationaux comme expatriés qui échappent encore au contrôle fiscal. C'est le directeur provincial de la DGI en province orientale qui a livré cette information à Bounia. C'était au terme de sa mission de service. Selon Charles Moquet, des expatriés chinois qui exploitent de l'or dans la rivière Ituri ne sont pas soumis aux exigences fiscales. Delvin Ouaïsala.
Parmi ces impôts, le directeur de la DGI à province orientale cite notamment l'impôt sur bénéfices et profits, impôt professionnel sur rémunération et impôt exceptionnel sur rémunération des expatriés. Selon Charles Dimok, certains expatriés et travailleurs dans les compagnies qui ont un contrat de sous-traitance avec Kibali Gold échappent au contrôle de la DGI.
Nous avons pu dénicher près de 80 sous-traitants qui sont au niveau des DOCO et nous avons pu recenser plus d'un millier d'expatriés qui ne sont pas tous déclarés.
Dans le district de Ituri, ajoute le directeur de la DGI, les expatriés qui exploitent l'or dans certaines rivières à territoire d'Igumo et de Mambasa ne s'acquittent pas de leurs obligations fiscales. Un élu du territoire de Mambasa demande aux autorités politico-administratives d'agir pour mettre fin à cette situation. Kebe Abdallah Penembaka.
Tous ces gens-là, ils fonctionnent. Les administrateurs savent qu'ils sont là. Les commissaires de district savent qu'ils sont là. Le gouverneur de province savent qu'ils sont là. Donc il appartient à chacun, dans le milieu où il se trouve, de jouer le rôle.
Notez que le directeur de la DGI s'est confié à la presse après une mission de travail qu'il a conduit dans les territoires de Ouattara, dans les Haut-Uele, Aru, Maagi, Irumwe, Mambasa, Anituri. Bounia, Delbe, Waïsala, Radio Kapi.
Ce n'est pas tout le monde qui déclare ses activités. Il y a encore beaucoup de fraudeurs en matière fiscale, Michel Soumoui.
C'est ce que j'ai dit. C'est un problème d'abord de main-d'œuvre, un problème d'effectifs d'employés qui se pose. Daniel, je me souviens que quand j'étais petit, parce que je suis né dans un village qu'on appelle Tchofa, dans les territoires de Luba au Kassa-Oriental. Quand j'étais petit, quand je grandissais au village, il y avait un voisin dans le quartier qui avait creusé derrière sa maison un trou profond qui ne servait pas, de poubelle. Mais c'est un trou dans lequel il allait se jeter chaque fois que les agents devaient passer pour prélever les impôts, quand venait la période de l'impôt. Il allait se cacher dans ce trou. Et c'est son épouse qui l'avait dévoilé devant les agents. Une fois il est allé se cacher, l'épouse est sortie pour dire « il y a un fraudeur qui est caché ici derrière la maison ». On l'a sorti de là pour dire que c'était ridicule et honteux jusqu'au village de ne pas payer son impôt.
Ouais.
Mais pourquoi on ne le paye plus aujourd'hui? Pour deux raisons. La première raison, c'est l'administration fiscale qui est elle-même vétuste, dépassée, démodée, qui n'a pas pu s'adapter à l'évolution de la population, à l'évolution de l'activité économique, à l'évolution du contexte. dans lequel les agents opèrent et n'a pas pu le faire. Secundo, il y a un problème aussi d'inefficacité de l'État, ou plutôt de la confiance entre l'État et les agents. Et aujourd'hui, on parle d'une économie informelle à outrance, qui représente plus de 98% de l'économie nationale. Mais l'économie informelle, c'est quoi? C'est l'ensemble des opérateurs économiques qui estiment que, n'ayant rien à attendre de l'État, ils n'ont pas non plus de compte à lui rendre. Et voilà pourquoi ils ne paient pas l'impôt. Moi, je pense qu'il appartient à l'État et au gouvernement actuel de repenser la question pour qu'on puisse redynamiser l'administration fiscale et que l'État redevienne crédible, réinspire confiance aux agents, afin que tout le monde se sente que le soutien à l'État est un devoir citoyen de tout citoyen congolais.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Justement, le tour des autres infos de la semaine et des provinces en plus bref. Découverte depuis 2 mois d'une nouvelle carrière à Mouchacha, territoire situé à 350 km de Lubumbashi. On exploite de l'or, a indiqué l'administrateur du territoire adjoint chargé des questions économiques. Prosper Mbavou, qui se félicite de cette découverte, s'indigne en même temps de la présence des enfants dans ce site. Plusieurs cultivateurs ont abandonné les champs et se ruent vers cette carrière. Pas de comptoir d'achat pour l'instant à Mouchacha. Ces creuseurs vont vendre leurs produits à Kolwezi à près de 100 km. Les opérateurs économiques membres de la Fédération des entreprises du Congo, FEC Gemena, district du Sud Ubangi, ainsi que les commerçants regroupés au sein de l'Union des commerçants du Sud Ubangi, sensibilisés à la promotion des investissements locaux cette semaine. Cette sensibilisation organisée par l'ONG Association pour le développement communautaire Bon Départ poursuit, entre autres objectifs, faire de l'opérateur économique de Gemena un véritable partenaire du développement. L'entreprise Esco Congo a suspendu les travaux de réhabilitation de la route Mbao-Kamango dans le territoire de Beni. Elle réclame le paiement de 170 000 dollars américains, un montant que lui doit le FONER pour les travaux déjà réalisés. Les autorités administratives coutumières, le comité local de développement de Beni-Mbao et la chefferie de Watalinga se sont réunis lundi à ce sujet. Une commission provisoire est mise sur place chargée de percevoir la taxe péage route. Les cantonniers sont, eux, appelés à poursuivre leur travail de maintenance en attendant le dénouement de la situation. Le courant électrique rétabli lundi à Kasindi. Nous sommes à la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Le coordonnateur de la SNEL dans cette partie renseigne que la compagnie ougandaise qui alimente cette partie de la RDC en énergie électrique avait interrompu la fourniture pendant 25 jours pour réclamer de la partie congolaise le paiement de 300 000 dollars américains. Le rétablissement est intervenu après que la RDC ait versé un acompte de 200 000 dollars. Lancement officiel à Kinshasa du Fonds de développement local pour le bien-être des populations. Ce fonds est géré par le programme d'appui à la conservation des écosystèmes du bassin du Congo. Pour la petite histoire, les chefs d'État africains, membres de la CEEAC, réunis au sommet de 2005 à Brazzaville, avait décidé de créer ce fonds pour lutter contre la pauvreté persistante dans la sous-région. Le fonds de développement local, avec un portefeuille lourd de 10 millions de dollars américains, servira à financer 300 micro-projets pour une durée de 2 ans. Mais il faut se constituer en association, en collectivité, ou groupe d'activités de pêche, élevage, agriculture et même de bâtiments pour bénéficier de ce fonds. Mardi, journée porte ouverte à la Banque mondiale, représentation de Kinshasa. Les coordonnateurs des différents projets du gouvernement financés par la Banque mondiale ont été face aux journalistes de Kinshasa au siège de la représentation de la Banque mondiale en RDC. La Banque mondiale a organisé cette journée porte ouverte aux médias pour communiquer sur ses interventions dans différents secteurs en RDC avec un portefeuille de 3,1 milliards de dollars américains en 2013. La Banque a-t-on continué à financer les projets déjà en cours d'exécution et financer ceux qui seront lancés cette année? Les discussions ont porté sur le financement de la Banque mondiale dans le secteur privé à la gouvernance dans son ensemble, en passant par l'agriculture, l'énergie, les infrastructures, pour ne citer que ces secteurs. C'est le moment de retrouver notre invité, Michel Soumoué. Vous avez suivi cette série de tours de province. Un commentaire à placer sur l'une ou l'autre formation?
Peut-être que je devrais dire un petit mot sur le fonds de développement.
Oui.
De la CAC en faveur des, si je comprends bien, des micro-projets, des micro-entreprises de 10 millions de dollars. Et là, je voudrais quand même dire que c'est, encore une fois, ça me semble, excusez-moi, ridicule quand même pour
la
une communauté, oui, pour une communauté régionale de ne pouvoir mobiliser que 10 millions de dollars et prétendre combattre la pauvreté avec 10 millions de dollars qui ne représentent même pas le besoin d'investissement ou de réhabilitation d'une entreprise viable au Congo. Ce n'est pas possible. Et je devrais dire que l'économie politique n'a pas pour mission de lutter contre la pauvreté. L'économie a pour mission de créer la richesse, la prospérité. C'est par la création de la richesse qu'on atteint le développement d'une nation. Et la question de la pauvreté a sa solution dans la répartition de la richesse créée. Et alors je pense que lorsque on vient avec un fonds de développement, avec une telle mission, une telle ambition, on vient jeter de la poudre aux yeux des citoyens congolais. Nous avons beaucoup de problèmes qui demandent des financements. Il nous faut des crédits et des crédits sérieux parce que nous avons des dotations naturelles qui exigent d'être mises en valeur moyennant des crédits significatifs. Pourquoi quand on va au Chypre, on apporte 10 milliards de dollars pour résoudre une petite question de crise bancaire, et alors qu'au Congo, un pays en crise de toute une nation depuis des décennies, depuis son existence, on vient avec de la poudre aux yeux du genre 10 millions de dollars, etc. Ça fait quand même un problème. Et je pense qu'à certains moments, on devrait quand même être capable de refuser certaines histoires qui sont ridicules.
Surtout que les 10 millions, ce n'est pas seulement pour la RDC, c'est pour le bassin du Congo.
Et ce n'est pas pour une année, c'est pour deux ans pour le bassin du Congo. Alors, et c'est pour une multitude, une centaine, des centaines d'entreprises de bénéficiaires. Ça fait quand même trop un grand problème. Moi, je pense que par respect, par dignité humaine, par dignité de l'État, il y a certaines dons qu'on devrait refuser.
Panorama économique, reportage.
Flambée des prix des différentes denrées agricoles dans le territoire de Yunzhou, en l'espace de 2 mois seulement, les prix de ces produits sont passés dans la quasi-totalité du simple au double. À la base de cette hausse généralisée, une forte demande due à l'arrivée massive des déplacés de guerre, mais aussi à l'exode vers une nouvelle carrière d'exploitation artisanale de l'or. Suivez plutôt ce reportage de la semaine signé Expedit Mamba Mubi.
De mémoire de la population du territoire de Yunzhou, jamais le prix des denrées agricoles n'avait auparavant augmenté dans les proportions actuelles. Pour espérer acheter un bassin de maïs, la ménagère doit débourser 12 000 francs, alors que les autres années, le prix de cette denrée n'avait jamais dépassé les 5 000 francs. Le maïs n'est pas la seule denrée à connaître cette flambée de prix. Le ver de riz a vu également son prix doubler. De 150 francs, le verre est passé à 300 francs. Il en est de même de l'huile de palme. Une bouteille de 72 centilitres s'achète à 1200 francs au lieu de 800 francs. Un verre d'arachide revient à 250 francs contre 150 il y a peu. Pour justifier cette hausse généralisée des prix, l'administrateur de territoire de Yunzhou cite l'afflux de déplacés de guerre d'une part. Ces derniers n'ont pas encore reçu de l'assistance de la part des humanitaires. Il y a d'autre part l'exode des personnes venant de Kalemie, Bukavu, Goma, etc. vers la nouvelle carrière d'exploitation artisanale de l'or à Moussebe. Déjà, ce foyer compte 16 000 creuseurs artisanaux. Kalemie, Expedit Mwamba Mubi pour Écho d'économie.
Et bon week-end à toi, Expedit Mwamba Mubi, dans le studio de Radio Okapi, sur le plateau de Panorama économique, Michel Soumoué. Michel, nous allons terminer par là. La flambée de prix et cette pauvreté de la population, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire?
Le fait que le défi pour la relance de l'agriculture afin que devienne effectivement priorité des priorités ne doit pas être un slogan. Et le gouvernement doit être conséquent et savoir que pour lancer une véritable politique agricole, il y a des défis énormes à relever. Notamment, si nous devons passer par l'agriculture mécanisée, il faudrait que le gouvernement soit capable de résoudre la question du prix de carburant à travers les provinces. Pourquoi le prix du carburant doit-il être différent de Kinshasa et des provinces, alors que nous sommes un même pays? C'est un grand défi. Comment le gouvernement va-t-il s'y prendre? Il faut une bonne réflexion, une profonde réflexion, pour qu'on crée effectivement des conditions de développement de l'agriculture à travers le pays, parce que c'est l'intérieur qui approvisionne les centres-villes en denrées alimentaires, pas seulement s'approvisionner lui-même.
Merci beaucoup, Michel Somoué. C'est toujours avec le COPEMECO.
FENAPEC, c'est moi qui vous remercie.
FENAPEC, ok, merci beaucoup. Merci à vous, chers auditeurs. Merci à Michel Somoué qui nous a mis dans cette ambiance de retour sur l'actualité économique de Radio Capi avec des commentaires et analyses. Merci, Michel, et à la prochaine occasion.
Merci Daniel.
Et l'actualité économique, c'est chaque jour de lundi à vendredi, 18h15 sur Radio Okapi. Très bonne suite de programmes sur votre radio.